C'est en 1972 que Lacan a emprunté à Guilbault ce nœud borroméen. Il a trouvé qu'il lui allait comme bague au doigt pour y démontrer ce qu'il avait déjà mis en évidence depuis fort longtemps, les trois registres du symbolique, de l'imaginaire et du réel. Georges Théodule Guilbault était un mathématicien qui s'était lui aussi intéressé à l'application des mathématiques aux sciences sociales. Je voudrais vous parler donc aujourd'hui de l'usage que Lacan a essayé de faire de ce nœud borroméen en le transplantant en quelque sorte dans le champ de la psychanalyse. C'est en fait d'une façon très tardive, de 1973 à 1976, au cours des trois séminaires « Les noms du père » RSI et le symptôme, qu'il élabore alors un nouveau mode d'approche de la psychanalyse avec sa théorie des nœuds, avec ce qu'il appelle ses rondes ficelles. Chemin faisant, ils nous livrent les secrets de leur maniement dans la mesure où ils sont faits, fabriqués pour rendre compte de sa pratique. Les trois registres du symbolique, de l'imaginaire et du réel, noués ensemble dans le nœud, structurant le champ de l'expérience analytique. Ce que nous apprenons chemin faisant, c'est que ce nœud borroméen est le plus souvent raté et qu'il s'agit donc toujours pour chaque sujet de le réparer, de le faire tenir ensemble, avec l'aide d'un quatrième qui est soit le symptôme, soit l'inhibition, soit l'angoisse. De cette triade, seule, celle du symptôme a été élaborée par Lacan avec ce qu'il a appelé d'une autre orthographe, celle du symptôme. Symptôme qui est en somme la lettre du symptôme, autrement dit son interprétation. Les deux autres, inhibition et angoisse, seulement nommées, sont restées au moins jusqu'à ce jour inexplorées. J'ai donc regroupé pour en constituer un petit vade-mecum les conseils que Lacan nous donne et se donne à lui-même dans une certaine mesure, puisque cette nouvelle logique de sac et de corde est en cours d'élaboration. Première règle, ce nœud, il faut en user bêtement, ne pas trop se casser la tête à son propos, bref, en être dupe. C'est ce qu'il dit dans la séance du 17 décembre 1974 du séminaire RSI. Pour opérer avec ce nœud, d'une façon qui convienne, il faut que vous vous fondiez sur un peu de bêtise. Le mieux est encore d'en user bêtement, ce qui veut dire en être dupe. Il ne faut pas entrer dans le doute obsessionnel, ni trop chipoter. Que veut dire qu'il faut en être dupe? Lacan l'indique dans son propos. Tout d'abord, ne pas faire d'hypothèse, s'en tenir strictement à ce qui est fourni. En l'occurrence, sans doute, faut-il être dupe du fait que ce nœud du symbolique, du réel et de l'imaginaire sont noués ensemble de façon telle que si l'un de ces trois est coupé, les deux autres partent à la dérive. Et il précise « La répudiation des hypothèses me paraît être ce qui convient et ce que je désigne proprement de ce conseil » d'être assez bête pour ne pas se poser de questions concernant l'usage de mon nœud, par exemple. Ce n'est certainement pas à l'aide de ce nœud qu'on peut aller plus loin que de là où il sort, à savoir de l'expérience analytique. C'est de l'expérience analytique qu'il rencontre, et c'est en cela qui est son prix. Dans la séance suivante, du 14 janvier 75, il complète ainsi cette affirmation. « Ce que je dis, ça intéresse tout le monde. Ce que je dis est un frayage qui concerne ma pratique. Un frayage qui part de cette question que, bien sûr, je ne me poserais pas si je n'avais pas ma pratique. Dans ma pratique, la réponse, c'est que c'est qu'est-ce qu'implique que la psychanalyse opère. C'est donc avec ce nœud borroméen qu'il pense pouvoir rendre compte de l'efficacité de la psychanalyse, en quoi et comment elle opère. Deuxième règle, règle majeure, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, ne pas brûler toutes les étapes. Cette règle se trouve énoncée dans la séance du 18 février 1975 de RSI. Elle est énoncée sobrement, mais elle n'en est pas moins décisive. Elle pose en effet que ce nœud borroméen est un point d'aboutissement de son enseignement. Il y a été amené pas à pas, on ne peut donc en brûler les étapes. Voici textuellement ce qu'il en dit. Comment j'y ai abouti? Il est certain qu'actuellement, enfin si moi bien sûr j'en ai le fil, c'est-à-dire ce qui en fait la consistance, seul permettra d'en trouver le fil, la suite des séminaires dont vous avez le premier et le dernier, c'est ce qui en donnera ce que je désigne de la consistance. Cette règle est importante, car il est bien spécifié qu'on ne peut pas ainsi brûler toutes les étapes, commencer par exemple par la fin des séminaires et les élaborations les plus tardives de Lacan. En procédant ainsi, on se prive des moyens de déchiffrage les plus efficaces de ces textes pourtant difficiles. Troisième règle implicite. C'est cette troisième règle que je rajoute, c'est une constante référence au texte de Freud. Cette troisième règle n'a donc pas été énoncée comme telle par Lacan, mais on ne peut que la déduire à la lecture des trois séminaires qu'il a consacrés à l'élaboration du nœud borroméen. Son retour à Freud annoncé au tout début de son enseignement n'était pas vaine promesse et il s'y est maintenu jusqu'à la fin. Pour le prouver, j'en choisis un exemple, le rapprochement effectué par Lacan entre ces trois ronds de ficelle du symbolique, de l'imaginaire et du réel avec les trois identifications décrites par Freud. Mais pour que ce rapprochement entre les trois identifications freudiennes et les trois ronds du symbolique, de l'imaginaire et du réel qui sont nommés dans le nœud borroméen, je suis obligé de faire un détour par le texte freudien pour rappeler même brièvement comment Freud décrit ces trois sortes d'identifications. La première s'appelle identification primaire narcissique au père, au corps du père. Elle se produit par incorporation. Voici comment Freud la décrit dans le chapitre ayant pour titre l'identification. L'identification, écrit-il, est connue de la psychanalyse comme la forme première d'un lien affectif à une autre personne. Elle joue un rôle dans la préhistoire du complexe d'Édipe. Le petit garçon fait montre d'un intérêt particulier pour son père. Il voudrait devenir et être comme lui, prendre sa place en tout point. Quelques pages plus loin, dans un autre chapitre de ses essais de psychanalyse, qui a pour titre « Le moi, le surmoi, idéal du moi », Freud précise ce qu'est que c'est cette forme spéciale d'identification, celle qui précède l'Édipe et qui pourtant va servir d'assise de soubassement aux identifications terminales de l'Œdipe. Car derrière, écrit-il, ces identifications se cache la première et la plus importante identification de l'individu, l'identification au père de la préhistoire personnelle. C'est une identification directe, immédiate, plus précoce que tout investissement d'objet. Cette première identification est liée à la phase orale de la libido, celle du cannibalisme, elle se fait par incorporation. La deuxième forme d'identification est une identification à un petit trait de l'objet, à l'objet d'amour ou à l'objet de haine. Cette identification est donc celle de la fin de l'Œdipe, quand l'objet doit être abandonné du fait de l'interdit de l'inceste. Voici comment Freud la spécifie. Nous ne pouvons alors décrire la situation qu'ainsi, l'identification a pris la place du choix d'objet, le choix d'objet a régressé jusqu'à l'identification. Il est à remarquer que dans ces identifications, le moi copie une fois la personne non aimée, l'autre fois, au contraire, la personne aimée. Il ne doit pas non plus nous échapper que l'identification est partielle, extrêmement limitée et n'emprunte qu'un seul trait à l'objet aimé. Freud donne comme exemple de cette forme d'identification la toux de Dora. Lacan l'appellera « identification symbolique au trait unaire ». La troisième forme d'identification, l'identification hystérique au désir de l'autre, Freud, pour la spécifier, décrit les symptômes hystériques qui se manifestent chez les jeunes filles d'un même pensionnat. C'est le repérage d'un désir qui produit par sympathie les mêmes symptômes. Cette identification hystérique au désir de l'autre est d'ordre imaginaire. C'est par le biais de cette identification que le désir du père pour une femme oriente le désir du sujet vers son choix d'objet. C'est donc ainsi que Lacan, pour poser les trois ronds du nœud borroméen, se réfère à la triple identification freudienne. Il écrit « Freud est assurément génial ». Il est génial en ceci que ce que le discours analytique a fait saillir sous sa plume, c'est ce que j'appellerai des termes sauvages. Lisez Psychologie des masses et analyse du moi et très précisément le chapitre l'identification pour saisir ce qu'il peut y avoir de génial dans la distinction qu'il y formule des trois sortes d'identification. À ce nœud d'énigme de ce chapitre de l'identification, Lacan propose donc de conjoindre à la première forme d'identification, celle au corps du père par incorporation, le rond du réel, celle de la seconde, identification à un petit trait de l'objet au rond du symbolique, enfin l'identification hystérique au désir de l'autre, au rond de l'imaginaire, ces trois ronds étant tous liés par le même symptôme. Freud nous donne comme exemple le symptôme hystérique de Dora, qui tousse comme son père et qui met ainsi en scène les trois formes de son identification. Alors que Lacan effectue ce rapprochement, il indique que ce nœud borroméen est en quelque sorte l'algorithme qui déchiffre les mécanismes de cette triple identification qui est pour Freud un nœud d'énigme. Or, si vous avez la curiosité d'aller vérifier la définition de ce que c'est un algorithme, vous aurez le plaisir d'y lire ceci. Un algorithme est la description d'une suite d'étapes permettant d'obtenir un résultat à partir d'éléments fournis en entrée, par exemple une recette de cuisine, et en est un algorithme permettant d'obtenir un plat à partir de ses ingrédients. Ce neuroméen serait donc la recette qui permet la réalisation du sujet humain avec cette triple identification qui le constitue. Et c'est au cœur de cette triple identification dont le neuroméen et son algorithme que la psychanalyse opère, et bien sûr de par les pouvoirs de la parole.